Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM, de IDFM Radio, pardon, avec à la technique Sabrina. Bonjour Sabrina. Et puis Chloé avec nous, notre vidéocast. Crise de l'immobilier, parc industriel seront les thèmes de ce nouveau numéro de l'économie en direct. Aujourd'hui, 2 avril. Une émission que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, web radio en .fr. DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier avec notre appli mobile. Figure de proue, chacun dans leur secteur, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Guillard. Bonjour Éric.
Bonjour Jacqueline.
Ravi de votre nouvelle venue chez IDFM Radio. Notaire de l'office notarial de Taverny, Guillard Petit-Lebrun, vous êtes depuis un an le président de la Chambre des notaires de Versailles. Une position stratégique pour nous parler de la crise qui sévit dans l'immobilier depuis plusieurs mois. Une crise qui suscite de nombreuses questions quant à ses tendances et ses impacts. Et nous comptons sur vous pour y répondre.
Avec plaisir.
À vos côtés, Georges Yaramis. Bonjour Georges.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Président de l'Association des propriétaires du parc industriel de Sarcelles, Villiers-le-Bel. Co-président du CCACF, Conseil de coordination des acéros chaldéens de France. Un chef d'entreprise engagé dans de nombreux combats. Vous nous raconterez votre parcours et les clés de votre réussite, Georges.
Merci, avec plaisir.
Bienvenue à tous les deux et encore merci de nous accompagner en direct sur ce plateau de l'économie en direct. Évidemment, une émission à retrouver en podcast sur le portail de la radio idfm98.fr. Mais pour l'heure et en attendant de vous donner la parole, nous allons retrouver par téléphone notre chroniqueur valdoisien Gérard Vespierre, conférencier en géopolitique et auteur de Décryptons le monde. Impossible pour IDFM Radio de ne pas revenir sur l'attentat meurtrier qui a eu lieu le 22 mars à Moscou. Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline et bonjour à vos invités et aux auditeurs.
Merci. Gérard, outre l'atrocité de l'événement, vous évoquez son aspect totalement imprévu, voire surprenant. Comment expliquez-vous cet acte sanglant et meurtrier de l'État islamique du Khorasan en Russie?
Eh bien, il faut, pour trouver les explications fondamentales, se replonger dans l'histoire sanglante et complexe de la Russie vis-à-vis du monde musulman. Et cette histoire, elle a deux volets. Un volet historique, c'est le moment de le dire, remontant au 19e siècle, et puis un volet contemporain. Et donc, au 19e siècle, que s'est-il passé? Eh bien, au moment où la France elle-même guerroyait et conquérait l'Algérie et la Kabylie, eh bien, la Russie conquérait le nord du Caucase et les territoires abritant des populations musulmanes. Et donc, nous sommes partis d'Algérie, mais la Russie est restée, elle a conquis donc des terres musulmanes qu'elle a intégrées à l'Empire russe. Et donc ça, c'est et bien sûr, avec morts, blessés et des histoires douloureuses, d'où la résurgence de la guerre en Tchétchénie en XXe siècle, qui a voulu retrouver son indépendance. Donc voilà, on a un volet historique et douloureux, sanglant de la Russie vis-à-vis du monde musulman. Et dans l'univers contemporain, donc il y a cette liaison avec la guerre de Tchétchénie et puis les interventions au XXe siècle de l'URSS en Afghanistan. Donc Al-Qaïda avait parlé de l'arrivée des impies, donc des soviétiques athées en terre sacrée d'islam. Il y a eu des centaines de milliers de civils tués, donc des musulmans. Et puis, dernier volet, eh bien, l'intervention russe en Syrie au XXIe siècle. Donc, voyez-vous, là aussi, avec des dizaines de milliers de morts. Donc, au XIXe, au XXe, au XXIe siècle, il y a une histoire douloureuse, très sanglante, entre l'historique Russie, l'URSS et la Russie actuelle et le monde musulman.
Voilà, oui, un lourd passé et un gros contentieux, on a bien compris. Merci de cette analyse historique et rationnelle, votre marque de fabrique, Gérard. Comment, dans un tel contexte historique et contemporain, comment expliquez-vous l'impréparation de l'État russe face à l'extrémisme radical musulman ?
Eh bien, je pense que l'État russe, il est actuellement complètement concentré dans sa guerre vers l'Occident, n'est-ce pas ? C'est le leitmotiv du pouvoir russe et de Vladimir Poutine. Donc, il est complètement concentré dans sa guerre vers l'Ukraine. Et puis, il est concentré donc dans cette mobilisation intérieure vers la répression de toutes les forces qui s'opposent à la guerre en Ukraine. Donc, on est effectivement dans une querelle inter-russe et la mobilisation aussi des forces de sécurité contre les opposants politiques. Donc, je ne fais pas forcément référence à la malheureuse disparition de Navalny, mais c'est tout l'appareil policier et de sécurité qui était concentré vers donc et contre la lutte de l'opposition politique. Donc, il y avait cette mobilisation générale et puis, bien sûr, cette attitude de la Russie et de son président vis-à-vis des États-Unis, n'est-ce pas ? Quand les États-Unis, le 7 mars, ont dit « attention » et ont prévenu l'État russe, quelle était la réaction de Vladimir Poutine, même devant une assemblée de cadres du FSB ? Eh bien, non, les États-Unis nous font du chantage, n'est-ce pas ? Nous n'avons que faire de leurs recommandations. Donc, la Russie à nier la réalité. Donc, à nouveau, il y a une double explication, le regard totalement tourné vers la guerre en Ukraine et le déni officiel de Vladimir Poutine lui-même de tout risque d'attentat devant les cadres du FSB quelques jours avant. Oui. Donc, les forces de sécurité avaient pratiquement l'ordre du président de s'occuper d'autre chose, de regarder ailleurs.
Oui, il faut dire que le monde entier a été surpris hein, du délai de prise de parole de Vladimir Poutine aussi, après 20 heures après l'attentat, je crois, mais également de son message, ignorant dans un premier temps la revendication de l'État islamique et attribuant l'acte à l'Ukraine. Alors, Gérard, vous, comment décryptez-vous cela ?
Eh bien, écoutez, la réalité n'a pas d'importance. Il fallait absolument, impérativement, politiquement désigner l'Ukraine de façon à ne pas écarter le peuple russe de l'objectif absolument prioritaire, la guerre en Ukraine. Donc il a fallu créer un discours nouveau, créer une rhétorique, préparer les services qui allaient dupliquer, qui allait diffuser cette information au monde entier, donc les équipes qui s'occupent des plateformes internet, qui s'occupent de X Twitter, etc., etc. Il fallait leur donner la matière pour pouvoir accompagner ensuite la parole du président. Donc une fois que tout le dispositif a été mis en place, à ce moment-là, le président à parler, voyez-vous. Donc, il s'agissait pour Vladimir Poutine d'éviter toute dispersion de l'énergie psychologique du peuple russe, de se concentrer sur la guerre et donc de ne pas s'occuper de la responsabilité de l'État islamique qui concerne aussi une grande partie du peuple russe, parce qu'il y a 20 millions de musulmans, n'est-ce pas, en Russie. Donc toujours une double explication, le refus de considérer la réalité n'a pas d'importance, il ne faut surtout pas ouvrir dans l'esprit de la population un deuxième front de guerre, cette fois intérieur, contre le terrorisme islamique, exposant 20 millions de musulmans de Russie. Il faut à tout prix concentrer le peuple russe sur un seul et unique front, la guerre contre l'Ukraine. La recherche de la vérité n'intéresse que les démocraties. Dans les dictatures, seule est importante l'efficacité du discours par rapport au but politique du régime.
Et donc, compte tenu de tout ce que vous venez nous dire, faut-il s'attendre à une augmentation de l'intensité de la guerre en Ukraine dans les prochains jours ou semaines? Et y a-t-il un lien à faire avec le discours du président de la République au début du mois?
Écoutez, je crois pas que la Russie ait besoin de quelques justifications, n'est-ce pas, pour augmenter son intensité de combat. Elle n'a eu pas besoin de justification pour déclencher le conflit. Donc je crois pas, tout dépendra de ses capacités militaires à hisser le conflit donc à un niveau supérieur, soit dans le domaine terrestre, soit dans le domaine aérien, soit dans le domaine maritime. Cela dépend de ses capacités militaires intrinsèques et non pas d'une justification. Et quant au discours du président, qui a eu lieu bien sûr quelques jours et même semaines avant cet attentat, bien il fait référence à l'accord de sécurité entre l'Ukraine et la France et qui dit très spécifiquement que au cas où la Russie lancerait une nouvelle offensive d'ampleur en Ukraine, à ce moment-là, on se réserve la possibilité d'avoir une forme, premièrement, de contact urgent avec l'Ukraine et d'intervention. Donc la Russie n'a besoin d'aucune justification pour augmenter ses frappes. Si la guerre n'était pas justifiée, les autres étapes n'ont pas besoin de justification non plus. Donc, dans une période où nous n'avons pas voulu, une période antérieure, n'est-ce pas, la Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons pas voulu défendre Danzig, nous avons eu le déshonneur de cette reculade et l'horreur de la guerre, selon la formule de Churchill. Donc, le courage en politique est une vertu, dans le sens latin du terme, c'est-à-dire une force.
Merci Gérard, merci pour cette conclusion. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que tous vos écrits et interventions médias se retrouvent gratuitement sur votre site www.lemondedécrypté.com. Il faut juste s'abonner. À bientôt Gérard pour d'autres commentaires sur la situation internationale.
À bientôt et l'abonnement est gratuit.
Oui, absolument. Mais je l'ai pas dit. Si, je l'ai dit que ça se retrouve. Ah oui, l'abonnement. Merci Gérard. À bientôt. Au revoir.
Bonne journée. Bonne émission.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Vous êtes bien sur IDFM Radio à l'économie en direct et ce matin, nous parlons de la crise dans l'immobilier d'un parc industriel situé à l'est du Val d'Oise. Avec moi dans le studio, Éric Guillard, notaire de l'office notarial de Taverny, Guillard Petit-Lebrun et président de la Chambre des notaires de Versailles et Georges Yaramis, président de l'ASPI, l'ASPI, Association des propriétaires du parc industriel de Sarcelles, Villiers-le-Bel, coprésident du CCACF, Conseil de coordination des Assyro-Chaldéens de France. Éric Guillard, on ne peut plus l'ignorer, la crise immobilière a entraîné des bouleversements significatifs sur le marché de l'immobilier. Acheteurs, vendeurs, investisseurs se retrouvent dans des situations qui nécessitent une adaptation au niveau du comportement et une compréhension des faits. Vous-même, en tant que dirigeant de l'étude Guillard Petit-Lebrun, mais aussi en tant que président de la Chambre des notaires de Versailles, quels commentaires, quelles analyses faites-vous sur cette situation?
Bien, déjà, la première des choses, c'est qu'en 30 ans d'exercice, c'est la troisième crise que nous connaissons en matière immobilière. Rappelez-vous, 1991, la guerre du Golfe. L'immobilier a chuté pendant à minima 3 ans. 2008, les subprimes, les Lehman Brothers. Là, il y a une chute de l'immobilier qui a duré 6-8 mois. Et enfin, un arrêt continu mais certain de l'immobilier depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des cycles. Des cycles de plus en plus courts. De fait, c'est des cycles de 15 ans. Et manifestement, en tout cas de mémoire de notaire, c'est la crise la plus longue et la plus importante, même violente, que nous connaissons en matière immobilière, que nous connaissons actuellement.
La plus longue et peut-être la plus grave aussi.
La plus grave, oui, parce que aujourd'hui, elle concerne aussi bien le secteur de l'ancien, donc les ventes de fait de particuliers. Alors, peut-être pour les auditeurs et auditrices, j'ai des chiffres qui sont prégnants. En 2023, parce que nous, les notaires, vous savez qu'on est de fait les premiers concernés sur les mutations, sur les ventes. En 2023, en tout cas pour l'ancien, il y a une baisse de 25%. Donc, ce sont des statistiques en région Île-de-France de vente. Hein, donc, c'est les ventes signatures notaires, ce qui représente en gros 47 000 ventes en moins en 2023 par rapport à 2022. Donc, ça, si vous voulez, c'est quand même relativement important avec des conséquences extraordinaires, notamment, on en parlera peut-être après, pour les droits de mutation, vous savez, dans les frais dits notaires. Nous percevons l'impôt pour l'État, pour les départements et puis pour la région. Et donc, s'il y a moins de ventes, il y a moins également moins d'impôts. Donc, il y a une masse quand même relativement importante de ventes en moins dans l'ancien. Beaucoup plus accentué pour les maisons par rapport aux appartements, tout simplement parce que comme les maisons valent plus cher, cet investissement plus important, bon, le marché se raréfie. Les maisons, l'année dernière, moins 28% de ventes en moins par rapport à 2022, et pour les appartements, moins 24%. Donc l'ancien, la baisse a commencé depuis, on va dire, fin 2022, pour arriver à une décrue continue fin 2023, et on en parlera peut-être, pour arriver à un plancher janvier-février 2024. Quant au neuf, alors le neuf c'est relativement intéressant, parce que le neuf, ce sont des constructions, donc ça veut dire c'est un effort de logement pour les années à venir, notamment pour les primo-accédants, c'est-à-dire des jeunes qui ont autour de 25 ans, qui sortent soit de chez les parents, soit d'une location pour arriver à la propriété. Et le neuf, de fait, aujourd'hui, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, de fait, on a un marché qui est complètement à faune, où les projets aujourd'hui sont arrêtés, ou en tout cas les chantiers qui sont entamés ont du mal maintenant à trouver des acquéreurs.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous décliner tous les facteurs qui sont responsables de cette crise ?
Ah, les facteurs, malheureusement, ils sont tellement, tellement importants et multiples. Je pense que c'est une accumulation de beaucoup de choses. Vous savez, ces dernières années, on a eu quand même à gérer en France les gilets jaunes, hein, qui étaient relativement intéressants, parce qu'il y avait une souffrance qui est remontée à la surface. Il y avait bien évidemment l'inflation, il y a eu la réforme sur la retraite, il y a eu les guerres. Donc quand on cumule tout ça avec le point d'orgue que sont les emprunts, les taux d'emprunt, qui en un an, il faut quand même s'en rappeler, sont passés de moins de 1% sur des prêts à long terme sur 25 ans jusqu'à, il y a encore quelques semaines, à 4,5%. Il est évident que tous ceux qui pouvaient encore avoir accès à l'emprunt, aujourd'hui, pour des réseaux de taux d'endettement, statistiquement, il y a entre 30 et 40% de personnes, de ménages, qui pouvaient encore emprunter avec le même montant d'investissement début 2023, qui aujourd'hui n'ont plus accès à l'emprunt. Donc quand on cumule tout ça, ça fait que l'immobilier, c'est de la confiance. C'est-à-dire qu'en dehors de ceux qui sont mutés ou qui ne savent pas, qui sont obligés de vendre, vous ne vendez pas ou vous achetez pas si vous n'avez pas confiance à l'avenir et si vous ne vous projetez pas dans l'avenir. Hein, aujourd'hui, on achète de fait avec un emprunt entre 20 et 25 ans. Il est évident que vu le coût de l'immobilier qui a augmenté, hein, on arrive aujourd'hui, à contrario avec la crise, à une baisse de 5 à 7%. Mais en 25 ans, l'immobilier, le coût d'une maison, d'un appartement a doublé. Est-ce que le pouvoir d'achat des gens a doublé ? Non,
non, je crois pas.
Qu'est-ce qui a fait la différence ? Tout simplement, c'est l'endettement. Moi, il y a 20 ans, j'avais emprunté 15 ans taux fixe. Aujourd'hui, plus personne ne peut emprunter à 15 ans taux fixe, sinon vous êtes largement en surendettement. Donc, la durée d'emprunt est passée de 15 à 25 ans. Donc, à partir du moment où les banques, qui étaient le maillon essentiel pour un achat immobilier, on réduit drastiquement les possibilités d'emprunt. Bah, les vendeurs disent, moi, est-ce que je vais baisser mon prix de vente? Pas forcément, parce que psychologiquement, c'est pas évident de dire, je vais baisser le prix de ma maison, de mon appartement de 5, 10 ou 15%. Un vendeur est aussi un futur acquéreur. Donc se dire, bah, je vends, mais il faut que je réemprunte sur 25 ans à des taux qui ont doublé, triplé, c'est pas évident. Et puis un acquéreur, notamment un primo-accédant, hein, donc le primo-accédant, c'est celui qui passe notamment d'une situation locative à une situation de propriétaire. Aujourd'hui, on lui demande entre 30 et 40% d'apport personnel.
Oui, qu'il n'a pas. C'est incroyable.
Voilà.
Ouais.
Donc, quand vous cumulez toutes ces raisons-là, ça fait que bah, aujourd'hui, on est dans un marché qui a été planté, on en reparlera peut-être un peu parce qu'il y a peut-être la lumière qui est au bout du chemin,
du
en tout
tunnel.
Cas pour au bout du tunnel, en tout cas pour les ventes dans l'ancien. Mais c'est vrai que c'est une crise qui est violente et notamment, on en parlera peut-être dans le neuf et dans la construction et pour toutes les entreprises qui tournent autour de la construction. Vont avoir des conséquences dramatiques en 2024.
Oui, ça va toucher beaucoup d'emplois. Alors, l'impact de cette crise touche-t-il tous les biens de la même manière? Et en vous posant cette question, je pense comme Georges Yaramis est avec nous, président du parc industriel, est-ce que les biens industriels sont touchés de la même manière, Eric Guillard?
Oui, bien évidemment. Le parc immobilier aujourd'hui, nous on le voit chez nous. On parle même en ce moment des bâtiments industriels qui sont vides ou des bâtiments de bureaux qui sont vides, avec éventuellement de les réhabiliter en habitation. Une construction sur une zone d'activité d'un bâtiment au moyen d'un crédit bail ou même d'un crédit classique, aujourd'hui ça ne se fait pratiquement plus. Aujourd'hui, pouvoir sur des investissements qui représentent des centaines voire des millions d'euros pour un chef d'entreprise et se projeter, parce que les prêts souvent en matière industrielle sont beaucoup plus courts, mais avec une perspective qui est nulle, c'est pas évident. Avec des coûts de locaux qui sont encore relativement importants, on attend un petit peu. Donc oui, effectivement, en matière industrielle ou de parc immobilier, bien évidemment, la crise touche ces secteurs d'activité, bien sûr.
Georges Yaramis, je m'adresse à vous. Quelle est la situation sur ce parc, votre parc industriel?
Je rejoins le notaire sur ce sujet-là. C'est vrai qu'au niveau des bureaux, il y a une crise économique qui est énorme et il y a beaucoup de sujets qui est évoqué ou en disant qu'il faudrait peut-être le changer en habitation. Par contre, je pense que sur la partie locaux d'entreprise et commerciale, il y a une petite faiblesse, mais ça continue quand même à se
porter. Oui, c'est pas aussi
c'est pas aussi dramatique que l'habitation,
oui.
Je pense.
D'accord, oui. Donc,
bon, après, il y a sûrement une différence à faire entre les petites structures et les grandes structures.
Hein,
les grandes structures, c'est beaucoup plus compliqué que si vous cherchez, par exemple, dans une zone artisanale, un local qui fait moins de 50 mètres carrés.
Oui.
Alors que si vous recherchez quand même des grands plateaux, aujourd'hui, c'est relativement compliqué.
Eric Guillard, la question que je me posais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur mécanique, à savoir qu'en 2022, le marché immobilier était dans une phase de grand enthousiasme, avec des prix au mètre carré atteignant des niveaux records? Est-ce que c'est pas aussi... Alors bien sûr, il y a les taux dont vous nous avez parlé qui ont augmenté, mais est-ce que ceci n'explique pas cela aussi?
Alors, moi j'ai un curseur, c'est la 15. La 15 le matin à 7h30. Ça fait 30 ans que je fais le même trajet Paris-Province pour aller travailler. Et ce qui est très intéressant à la 15, c'est voir d'année en année où commence le bouchon.
Oui.
Et en 30 ans, le bouchon commence de plus en plus loin. Alors pourquoi je vous raconte cette anecdote? C'est tout simplement parce que la population en région Île-de-France a explosé. C'est normal, l'emploi est essentiellement Paris et tout ce qu'il y a autour. Et ce qui veut dire, c'est que la demande de fait, elle est là. La demande de se loger, elle est là. Donc, il y a une, des facteurs humains, des facteurs économiques, bien évidemment, mais la demande, elle est potentiellement là. Ça veut dire qu'il y a eu l'effet post-Covid. Mmh. Donc, il est évident que l'année 2020, avec les confinements différents, que ce soit en matière de construction ou en matière d'achat, on ne pouvait plus signer, les banques ne pouvaient plus prêter, des choses toutes bêtes. Il n'y avait plus de déménagement, les camions de déménagement ne pouvaient plus déménager, réemménager. Donc, effectivement, l'immobilier est tombé. Et sur un effet mécanique, comme la demande, de toute façon, potentiellement, elle est là, et que les banques ont continué une politique agressive, mais dans le bon sens du terme, en diminuant les taux d'intérêt, par un effet mécanique, 2021-2022 ont été de très bonnes années. Mais à partir du moment où les banques, et puis aidées aussi avec l'inflation, les systèmes de retraite, etc., où déjà psychologiquement, les futurs acquéreurs se sont un petit peu moins projetés sur l'avenir parce qu'un petit peu moins de confiance, et les banques qui ont fermé, entre guillemets, qui ont fermé le robinet, avec un effet domino, dès la fin 2022, nous avons pu constater dans toutes nos études un début de baisse de nos transactions.
Merci Eric Guillard. Je propose qu'on fasse une pause avant de continuer cet entretien très intéressant. On se retrouve tout de suite après.
Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir. Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal. Et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse. Et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je vais te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi, tu feras pas la même erreur. Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu mille fois avant toi, c'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends, que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer.
Vous écoutez L'économie en direct avec Jacqueline Voraz.
C'est L'économie en direct et sur IDFM Radio. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Guillard, notaire de l'office notarial de Taverny Guillard Petit Lebrun et président de la Chambre des notaires de Versailles, et Georges Yaramis, président de l'ASPI, Association des propriétaires du parc industriel de Sarcelles-Villiers-le-Bel, coprésident du CCACF, Conseil de coordination des Assyro-Chaldéens de France. Éric, vous venez de nous décrypter un petit peu les raisons de cette crise là qui sévit depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce qu'on peut penser du fait de cette crise qu'il y a une accumulation de biens à vendre et en regard la diminution du volume des transactions?
Alors ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à la dernière crise qui était celle de 2008, où la bourse, bien sûr, s'était effondrée, mais par voie de conséquence, par effet domino, il y avait pas mal de biens à vendre sur le marché, mais on trouvait de moins en moins d'acquéreurs. Aujourd'hui, force est de constater, et ça on le voit notamment avec les agences immobilières avec lesquelles les notaires travaillent, il y a bien évidemment moins d'acquéreurs parce que beaucoup moins de financement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que également les agences immobilières ont moins de stocks. Et moins de stocks, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui m'aident à vendre leurs biens sur le marché. Ce qui peut se comprendre, parce qu'en région Île-de-France, on a essentiellement de la résidence principale, donc ce n'est pas des achats à loisirs, c'est plutôt des achats raison. Et qu'un vendeur, on va dire un vendeur entre 30 ans et 60 ans, donc encore un actif, un vendeur est un futur acquéreur. Donc quand vous vendez votre bien, d'abord, vous ne voulez pas forcément le trop baisser le prix de vente, parce que psychologiquement, c'est pas évident de dire tiens, l'immobilier en 20 ans a doublé et ces dernières années, ça a encore augmenté. Puis dire tiens, je vais baisser de 5, 10, 15%, c'est jamais évident, comme quand on vend sa voiture, c'est pareil. Et ensuite, il faut se projeter sur l'avenir. C'est-à-dire que le vendeur, souvent, il vend à 9h, il rachète à 10h. Et quand il rachète, ben, il a cette problématique de dire ben, moi, je vais essayer, pour mon business plan, de baisser un peu le prix d'achat pour que ça me coûte moins cher. Et puis ensuite, avec des taux d'intérêt pour les banques qui ont explosé. Donc aujourd'hui, en tout cas, jusqu'il n'y a pas longtemps, on était dans un marché où il y avait une problématique et de vendeurs et d'acquéreurs, qui fait que cette crise immobilière qui est longue et sans précédent quant à sa dureté et sa brutalité.
C'est ça. Donc oui, vous êtes en train de nous expliquer que certains ont été contraints de réviser leur prix à la baisse hein, parce qu'ils devaient absolument vendre, mais d'autres ont choisi de mettre en suspens leur projet.
Exactement.
Et en alors, attendant des jours meilleurs.
Ce qui est intéressant, c'est statistiquement, les statistiques qu'ont les notaires, en région Île-de-France, les prix de vente ont baissé entre 5 et 8%. On peut dire que l'immobilier est beaucoup trop cher, mais de fait, l'immobilier n'est que la résultante de l'offre et la demande. Donc, il est évident que le marché, notamment depuis 2021, donc depuis le post-Covid, le coût de l'immobilier a augmenté anormalement, tout simplement parce que les conditions d'octroi de prêt étaient manifestement beaucoup trop faciles et avec des taux d'intérêt, enfin, quand aujourd'hui, enfin, encore un an, on empruntait à moins de 1%, à 0,8% en net, donc en taux effectif global, c'est-à-dire tout compris en 1,5%, beaucoup de personnes ont sauté sur l'occasion et des personnes qui n'avaient pas forcément vocation à devenir propriétaires ont acheté. Donc aujourd'hui, oui, c'est un marché qui est compliqué, mais peut-être avec des lueurs d'espoir que nous commençons à ressentir.
Ouais. Et alors, est-ce que dans les explications que vous nous donnez, ça veut dire aussi que géographiquement, les notaires qui sont dans le sud souffrent moins de cette crise?
Alors, la crise est nationale.
Oui.
La crise est nationale pendant, on va dire, jusqu'à la moitié de l'année dernière. La crise du logement était essentiellement concentrée sur la région parisienne. Aujourd'hui, et ça, nous avons les statistiques avec nos instances, aujourd'hui, la crise est nationale. La crise de l'immobilier est nationale, aussi bien sur l'ancien que sur le neuf. Ceci étant, il est évident que sur certaines zones géographiques, la crise est beaucoup moindre, tout simplement parce que les marchés ne sont pas du tout les mêmes. Quand vous êtes, par exemple, en matière côtière, des lieux géographiques qui sont excessivement touristiques, le marché est européen. voire mondiale. Hein, Paris, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que dans le Val d'Oise, on ne va pas forcément voir débarquer des Japonais, des Australiens ou des Américains qui vont acheter une petite maison. Mais en tout cas, Marseille et puis toute la région sud, la Côte d'Azur ou même la région Atlantique, en tout cas pour l'ancien, oui, la chute a été beaucoup moins importante. Qu'en région Île-de-France.
Et je crois même que, enfin, il me semble avoir vu en préparant le dossier que les prix pouvaient continuer d'augmenter sur Marseille.
Ah bah c'est l'offre et la demande. Et puis quand vous savez qu'avec un TGV, vous êtes à 3 heures à Saint-Charles, bah, est évident qu'il y a toujours l'attrait de dire bah, ici, il ne fait pas très beau, mais 3 heures après, vous êtes en train de vous baigner dans les calanques.
Oui. Éric Guillard, je voudrais aussi qu'on aborde le problème des passoires thermiques parce que il y a eu, enfin, je crois que c'est en train de s'assouplir hein, depuis février, mais voilà, il y a eu cette grosse crainte de ne pas pouvoir vendre son bien parce qu'il n'était pas dans la bonne catégorie.
Alors, les passoires thermiques, vous savez que quand on vend un bien, il y a un certain nombre de diagnostics qu'il faut avoir, notamment ce qu'on appelle un DPE, diagnostic de performance énergétique. C'est comme quand vous achetez un réfrigérateur au supermarché, vous avez des diagrammes de A à G, et quand vous êtes classé F ou G, c'est pas que vous ne pouvez pas vendre, c'est que vous ne pouvez pas louer. Vous ne pouvez pas louer. Sans avoir fait des travaux relativement importants qui vous permettent d'arriver à minima à D ou à E. Donc ça veut dire que le marché des investisseurs est aussi un marché, de dire bah, tiens, je vais acheter un appartement bien placé, qu'il soit à Paris ou qu'il soit en région Île-de-France. À partir du moment où vous savez que vous ne pouvez pas louer, ça diminue une partie importante du marché. Ensuite, à l'époque, l'ancien ministre du Logement nous tenait le discours que, ce qu'on peut tout à fait comprendre, c'est que l'intérêt de la planète est supérieur aux intérêts particuliers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, 2023, moins 70% de locations en moins.
Oui.
Moins 70% de locations en moins. Paris intramuros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes un jeune qui sortait de l'école, qui avait entre 18 et 25 ans, qui voulait vous loger dans un petit appartement à Paris, de fait, c'est pratiquement impossible. Donc, le notariat, fort de tout ça, avec le poids que nous avons alerté les autorités politiques, notamment le Bercy et le ministère de l'écologie et le ministère du logement, en disant attention, on est dans le mur. Et d'après les dernières informations qu'on a tous pu avoir, ils sont en train de reprendre revoir un petit peu la copie. Mais vous savez, dans ce vieux pays qu'est la France, très, très administratif et très, très structuré, entre les bonnes intentions, la réalité, c'est-à-dire des lois ou des décrets, et puis ensuite la mise en application, ce sont plusieurs mois. Donc espérons que le bon sens va l'emporter et que d'ici, peut-être pas la fin d'année, mais peut-être pour cet été, qu'on assouplisse drastiquement ces problématiques d'énergie sur les logements dans l'ancien, bien sûr.
Éric, encore une pause et puis on essaiera de terminer cette interview sur une note un peu plus positive. À tout de suite.
J'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Que nous sommes proches de la nuit. Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni?
parce que je n'ai plus de chemise. C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Je suis né dans cette caravane, mais nous partons. Allez, viens. Bientôt mes os seront dans le vent. Je suis né dans cette caravane et nous partons. Allez, viens.
IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'économie en direct et ce matin, nous tentons de décrypter les facteurs de la crise dans l'immobilier avec à mes côtés Eric Guillard, notaire de l'office notarial de Taverny-Guillard-Petit-Lebrun et président de la chambre des notaires de Versailles. Comment voyez-vous les mois à venir? Est-ce qu'il va falloir apprendre à naviguer dans le contexte?
Je crois que celui qui lit dans le marc de café, pas mal, mais aujourd'hui, notre visibilité est pratiquement nulle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train de constater plusieurs facteurs extérieurs qui sont plutôt positifs pour l'avenir. La première, par rapport à nos entrées de dossiers. Nous, les notaires, nous tenons chacun dans nos études des statistiques et qu'une entrée de dossier génère généralement 3 mois après pour une vente, un chiffre d'affaires et puis une plus de visibilité sur l'avenir. A priori, on commence à constater, tout le monde n'est pas la même enseigne, mais on commence à constater qu'on aurait touché le plancher janvier-février de cette année sur cette baisse continue d'ouverture de dossiers, donc de transactions, et que depuis quelques semaines, pas non plus des semaines et des semaines, depuis quelques semaines, on est en train d'assister à un renversement de tendance, en tout cas pour les ventes dans l'ancien, et renversement de tendance qui peut se comprendre d'abord parce qu'il commence à faire jour, il y a des fleurs, donc psychologiquement c'est aussi un effet qui est important, cumulé au fait que les banques seraient repassées un taux d'intérêt sur du long terme à 25 ans à moins de 15%, et que peut-être cet effet de baisse va continuer. Donc effectivement, on a des raisons d'espérer, mais vraiment de façon très pragmatique et très, très raisonnée, sur le fait que peut-être cette chute dans l'ancien toucherait peut-être à sa fin. Par contre, concernant, c'est aussi intéressant, concernant la construction et le neuf, là, par contre, on est dans le dur. Les promoteurs sont dans le dur. pour des raisons diverses et variées, parce qu'il y a moins de taux zéro, parce que la loi Pinel est pratiquement terminée, parce que les primo-accédants, même avec de la TVA réduite à 5,5%, n'arrivent plus à avoir d'emprunt. Donc là, le neuf, c'est très compliqué.
C'est compliqué,
et à minima, peut-être, j'espère pas, mais à minima jusqu'au courant 2025. Ce qui va induire, notamment pour toutes les boutiques, les boîtes de BTP, des problématiques de personnes qui vont être sur le carreau, de structures qui seront en état de cessation de paiement, parce qu'une construction neuve, ça génère des milliers d'emplois. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème auquel l'État devra répondre. Là, ce qu'on a entendu, c'est que notamment, il voulait pouvoir réhabiliter des bureaux, hein, des tours, des entières de bureaux. Moi, je demande à voir, parce que transformer un local professionnel ou de bureau en habitation, ça demande beaucoup de complexité architecturale, de revoir un petit peu l'ensemble, et ça ne se fait pas comme ça. En tout cas, comme disait une chanteuse, il y a toujours le soleil au-dessus des nuages. Et inévitablement... Et
oui, de toute façon,
anecdote,
la crise, voilà, ça sera un jour, c'est clair.
Ça sera un jour parce que le marché est là, la demande est là, il faut juste savoir faire le dos rond, attendre, et je suis intimement convaincu que dans les semaines ou mois à venir, l'éclaircie sera là.
Éric, encore un mot, puisque vous êtes le président de la Chambre des notaires de Versailles. Vous devez forcément, cette crise touche également les notaires, hein, qui font les frais de cette baisse d'activité. Comment le gérez-vous? Comment gérez-vous cette situation, vous, en tant que président?
Alors, un notaire, il est bien sûr officier public, mais il est avant tout un chef d'entreprise. Mmh. Un notaire, c'est un chef d'entreprise avec des petites structures qui peuvent faire 5-10 personnes, avec des grosses structures qui peuvent faire 50, 100, 150, 200 personnes. Et par définition, un notaire, comme tout chef d'entreprise, est sujet aux aléas de la conjoncture. En région Île-de-France, de par la masse importante de transactions, bien évidemment, nos études sont touchées aussi bien sur nos produits que sur nos bénéfices. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que de par l'augmentation importante ces dernières années de l'immobilier, nous avons été obligés, bien évidemment, pour faire face à la demande d'embaucher des personnes compétentes.
Oui.
Et que
notre
échelle de salaire au sein de nos entreprises ont bien évidemment augmenté. Donc nos charges ont augmenté de façon mécanique. Et quand vous avez une baisse de transactions de 30%, bah, il est évident que sur un effet mécanique, le résultat diminue, voire parfois est négatif. Et en tant que président d'instance, donc sur les 560 notaires des Yvelines et Val-d'Oise, aujourd'hui, moi j'ai pas de secret, j'ai pas de tabou, nous avons des études qui sont en très grande difficulté économique, qui ont dû d'abord, malheureusement, parce que pour nous c'est dramatique, parce que le notaire est au cœur de l'humain, donc nous séparer sur des plans conjoncturels et structurels de salariés. Et ensuite, nous avons été obligés aussi de demander pour certains d'entre nous des prêts conjoncturels pour pouvoir payer nos charges, c'est-à-dire payer nos salaires, payer nos impôts, etc., etc. Donc aujourd'hui, oui, nous avons un système de surveillance des études quotidien à la Chambre des notaires, et que nous avons même mis au point une cellule économique avec un avocat RH, avec un mandataire judiciaire et avec une banque pour pouvoir aider le plus en amont possible une étude qui serait potentiellement en état de cessation de paiement. Et nous avons aujourd'hui dans la compagnie de Versailles certaines études qui sont dans le rouge. Et nous activons nos cellules de surveillance et d'aide pour pouvoir accompagner dans les meilleures conditions les confrères et consoeurs qui sont aujourd'hui dans des situations excessivement compliquées.
Merci Éric Guillard. Un conseil à donner à nos auditrices et auditeurs, compte tenu de tout ça?
Croyez en la pierre, croyez en l'immobilier. La propriété pour de tout temps a été un vecteur de bonne santé, un vecteur de positivité chez chacun d'entre nous. Donc, croyez en la propriété, qui est sûrement une des plus belles choses qui soit, parce que c'est peut-être un vecteur de réussite personnelle, familiale, professionnelle, et que dès à présent, vous pouvez vous remettre à en croire en l'avenir, parce que inévitablement, le système, à un moment ou à un autre, reviendra au beau clair.
Va s'inverser.
Bien sûr.
Merci Eric Guillard, président de la Chambre des notaires de Versailles, pour ce panorama. On retiendra qu'un léger rebond devrait se manifester dans les mois à venir. Et puis, on se donne rendez-vous dès que la situation s'améliore, c'est-à-dire, j'espère, bientôt.
Avec grand plaisir, Jacqueline.
Merci. Quelques minutes de musique et on se retrouve juste après.
T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux.
Écoutez l'économie en direct avec Jacqueline Voraz.
Vous êtes bien sur EDFM Radio et c'est la suite de l'économie en direct avec à mes côtés toujours Eric Guillard, notaire de l'office notarial de Taverny, Guillard Petit-Lebrun est président de la Chambre des notaires de Versailles, et Georges Yaramis, président de l'ASPI, association des propriétaires du parc industriel de Sarcelles-Villiers-le-Bel, co-président du CCACF, conseil de coordination des Assyro-Chaldéens de France. Focus sur vous, Georges. Alors, quelques mots peut-être sur votre parcours, Georges.
Écoutez, moi, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation aussi.
C'est réciproque.
Et de notre ami président de la Chambre de notaires. Je suis Georges Yaramis, un entrepreneur engagé sur le territoire du Val d'Oise en tant qu'acteur économique, mais je suis aussi très proche du monde politique.
Oui.
Sur le territoire et bien sûr du monde associatif. Français d'origine assyro-chaldéenne, le Val d'Oise, ça a été notre département de cœur un petit peu, parce qu'on s'y est tous installés. Et moi, je suis rentré dans le monde du business à mon très jeune âge, parce que mon père était déjà entrepreneur.
Oui.
Très bien. Parce que mon père, il était déjà entrepreneur et il possédait déjà une salle de réception qui est très connue et reconnue, je pense, en Île-de-France, parce que ça doit être une des plus grandes et des plus prestigieuses,
oui.
avec une grande notoriété. Elle est très
à quel endroit ?
À Villiers-le-Bel.
Villiers-le-Bel,
elle
oui.
s'appelle le Palace de Villiers, donc on a eu la chance
oui.
justement de...
on a appris que Sabrina avait, s'était mariée à cet endroit.
Voilà, exactement. Elle est très connue par les grands organisateurs, ceux qui font de très grands événements, ceux qui font de grandes réceptions. On a l'habitude de faire, par exemple, Miss Haïti, Miss Cap-Vert.
D'accord.
Des grands événements... festif de la communauté kabyle, mais on fait aussi de grands mariages pour ceux qui appartiennent à de grandes familles. On fait beaucoup de la communauté juive, maghrébine, africaine, turque, kurde et même
oui, c'est international.
Exactement, on a déjà fait des mariages chinois, des gens du voyage et bien sûr de notre communauté, nous-mêmes aussi de la communauté syro-chaldéenne.
C'est bien que vous puissiez comme ça fédérer toutes les communautés.
Ça me fait plaisir parce que ça crée un lien et beaucoup de rapports avec les valeurs et les familles.
Oui, qui sont les vôtres.
Voilà,
oui,
exactement. Ça fait 20 ans qu'on fait ça aujourd'hui. Avec mon frère Simon, on a développé aussi notre activité en parallèle où on fait du foot en salle
oui.
à Sarcelles. Mmh. On possède un centre sportif là-bas où on fait du 5 contre 5. Et là aussi, on a la chance de recevoir beaucoup de jeunes issus de tous les quartiers voisins, de toutes les villes voisines. Et peu importe les origines ou les classes sociales, ils viennent toujours au ballon, ils viennent tous passer un bon moment. Et moi, ça me fait plaisir de voir tout le monde comme ça passer de bons moments.
On parlera d'ailleurs d'un événement qui a eu lieu la semaine dernière, un événement assez... fédérateur de foot, hein, si vous voulez nous en dire quelques mots tout à l'heure.
Oui,
ou tout de suite.
Bon, pas de souci. Comme moi, j'ai l'habitude de créer beaucoup de synergies avec les entreprises ou d'autres acteurs du département, c'est-à-dire les pompiers ou la police ou d'autres citoyens, j'ai organisé avec l'association Fraternité Police dans la semaine un gros tournoi. Je crois que c'était l'un des plus gros de la région parisienne aussi, qui a réuni plus de 200 membres de la police.
Oui.
Il y avait la BRI, il y avait la BRAVEM, il y avait la DOPC, il y avait la BAC de Paris, il y avait la police municipale, la police nationale, mais de tous les départements.
Oui.
Et il y avait une équipe citoyenne aussi, il y avait une équipe d'entreprise. Et ça a permis justement de passer une très belle journée, tout le monde s'est amusé. Ça ouvre un peu ça casse un peu les barrières quoi de ce qu'on entend à la télé, de ce qu'on voit tout le temps à la télé. Et là, ça permet un peu de mettre tout le monde un peu à l'aise.
Un côté positif.
Côté positif. Et puis, c'est dans la bonne humeur. Tout le monde joue au ballon. Tout le monde va faire un petit barbecue, manger un petit sandwich, une petite bière. Et puis, ça permet de passer de bons moments. Et moi, je suis très content parce que ça me fait plaisir justement de voir les gens heureux et puis de faire de belles choses comme
profiter.
Ça.
Alors, Georges Yaramis, comment se retrouve-t-on président de l'ASPI ? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce parc industriel ?
Écoutez, moi, je suis entrepreneur déjà dans ce parc industriel. Et ensuite, j'ai adhéré à cette institution. C'est un syndicat qui est là depuis plus de 40 ans maintenant, l'ASPI et la SAVI. Donc, j'ai bossé au sein de ce syndicat quelques années. Ensuite, je suis passé membre du bureau pendant 3 ans. Et au fur et à mesure du temps, il y a eu une élection et puis je me suis présenté. Et je pense que les entrepreneurs, comme ils ont toujours le bon sens pour l'avenir, ils ont misé sur un jeune et ils ont voulu un peu de changement. Ils ont misé sur un jeune et puis je suis devenu président depuis 2 ans.
Très bien. Et donc, on a évoqué tout à l'heure les problèmes de crise immobilière. On vient vous trouver, ça remonte jusqu'au président, ce genre de problème ?
Ça remonte souvent, bien sûr, parce que, comme l'évoquait juste avant notre cher président, il y a beaucoup de bureaux qui sont vacants. Il y a beaucoup de problématiques aussi financièrement, parce que tout le monde n'arrive plus à accéder aux prêts, aux crédits. Mais par contre, on reste quand même sur le domaine de l'activité professionnelle. On reste quand même sur une période assez... C'est vrai que ça a diminué par rapport à la période avant Covid, etc.
Faste, oui.
Ça a diminué, mais on arrive encore à trouver acquéreurs quand on met en vente, où on arrive encore à trouver, trouver soit acquéreur, soit vendeur, on arrive à trouver du produit. Par contre, c'est vrai qu'il l'a très bien évoqué tout à l'heure, il n'y a pas assez de produits. Il n'y a,
ah oui.
a pas assez de biens en vente. Il y a plus d'acheteurs que de biens en vente. Mais l'avantage qu'on a, nous, dans notre parc industriel, c'est qu'on est vraiment à la frontière du monde, quoi. On est à 5 minutes, 10 minutes de Charles de Gaulle. Mmh. Donc, pour les entreprises qui veulent être proches de l'aéroport, c'est magnifique. Les accès à l'autoroute, c'est magnifique. Pour les grosses industries qui veulent prendre jet privé, le Bourget, il n'est pas loin.
Oui, c'est ça. Oui, ce sont les vrais atouts de votre parc.
Voilà.
Après, c'est vrai
qu'il y a aussi le côté où on est justement dans l'agglomération de Roissy-Pays de France avec Pascal Dole qui ça lui tient vraiment à cœur ce sujet-là de développer les entreprises. Il fait vraiment le nécessaire pour ça. On est à cheval sur deux villes, la ville de Sarcelles et la ville de Villiers-le-Bel. La ville de Sarcelles avec Patrick Haddad et la ville de Villiers-le-Bel. On a organisé justement un comité de travail avec les maires respectifs de chaque ville et puis l'agglomération et quelques entreprises pour justement développer et améliorer les accès, les espaces verts, les panneaux signalétiques.
Vous pensez que vous pouvez faire mieux encore ?
On va faire mieux et c'est sûr, il n'y a pas de souci.
C'est sûr. J'allais vous demander, pendant un temps, il y avait des zones franches dans ce parc. Elles existent toujours ?
Elles existent pour certains endroits, pour d'autres non.
Non, d'accord.
C'est vraiment...
C'est en train de se terminer, en
c'est
somme.
Ça.
Oui, c'est ça.
C'est pour la nouvelle qui existe.
Très bien. Georges, je vous propose aussi qu'on fasse une courte pause et puis on va parler de votre engagement associatif parce que je sais qu'il est important. À tout de suite.
Merci.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. J't'attendais pas, j'te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité. Dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas. Sans le même sang, on s'aimera. On s'aimera. J'avais pas prévu d'un jour adopter. En vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main, dis, prends-la. We'll be right back.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Si vous nous rejoignez, c'est bien dommage parce que on vient d'avoir des entretiens très intéressants avec Éric Guillard, président de la Chambre des notaires de Versailles. Et maintenant, je suis avec Georges Yaramis, qui est également coprésident du CCACF, Conseil de coordination des Assyro-Chaldéens de France. Alors Georges Yaramis, je vous sais très engagé et impliqué dans plusieurs associations. Peut-être commencer par le CCAF. CCACF,
voilà,
pardon.
Parce que le CCACF, c'est le Conseil de coordination de la communauté arménienne de France.
Oui.
Et le CCACF...
Oui, c'est pas une association.
Voilà, c'est le Conseil de coordination de la communauté assyro-chaldéenne de France.
Oui.
Voilà. Après, bon, c'est des associations qui sont voisines et qui se ressemblent beaucoup. Mmh. Le CCACF, c'est une structure parmi d'autres de la communauté. On a déjà plusieurs associations dans notre communauté qui existent depuis de nombreuses années. Le CCACF a été créé un peu à l'instar justement du CCAF ou du CRIF de la communauté juive. C'est pour faire un peu du lobbying, oui. J'ai envie de dire, au niveau du gouvernement. C'est pour le sujet vraiment que sur la communauté assyro-chaldéenne et puis pour mettre en avant tout ce qui est l'intégration et les valeurs de notre communauté. Parce que ça reste quand même sur le territoire du Val d'Oise une communauté qui est très exemplaire,
oui,
en termes d'intégration. Mmh. Et elle est très impliquée sur le monde économique, sur le monde politique. Et je pense qu'elle fait le nécessaire pour qu'il y ait le vivre ensemble qui existe justement sur ce département, quoi.
Oui, oui.
En tout cas, du peu que je sais, elle fait toute la communauté, même les personnes âgées justement chez nous qui ne savent pas très bien parler français, font en sorte de toujours respecter le voisin, de ne pas, mmh, déranger, mmh, de pas déranger l'autre, de ne pas manquer de respect. Il y a un grand effort qui est fait là-dessus. Et puis, c'est un grand honneur pour moi, justement, de présider cette association. Après cette structure, je participe beaucoup avec la CPME. Avec,
oui,
on était ensemble
hier. Nous étions hier soir, oui.
Voilà, l'Assemblée générale. je participe aussi au MEDEF avec le nouveau président justement qui est,
oui,
qui
Frédéric Anfray, oui,
exactement, mm-hmm, que je salue, avec la Fédération française de bâtiments,
oui, Sébastien Ramey, William Vinant, oui, que j'ai reçu il y a peu, et d'ailleurs
j'ai vu.
Sébastien nous a confirmé les problèmes dans le neuf, hein, ouais. Eric Guillard, donc oui,
Après, justement, j'essaye justement d'accorder beaucoup de temps parce que c'est un sacrifice. Hein. Il faut vraiment avoir du temps pour essayer d'aller un peu partout.
Vous êtes partout, oui.
Voilà, ouais, exactement. Ouais. Et j'essaye à travers mon temps de pouvoir d'être présent assez souvent quand on m'invite. Il y a le salon d'effervescence qu'il y a eu la semaine dernière. Il y a les salons du Made in 95. Il y a l'initiative 95 aussi.
Avec Jocelyne Gantois. Oui.
Exactement.
Et Cyril. Ouais.
Après, ça, c'est surtout les associations, on va dire, économiques, d'entreprises. Mais il y a beaucoup d'associations qu'il ne faut pas oublier dans le Val-d'Oise. C'est les associations caritatives qui font beaucoup d'aide, qui aident beaucoup les gens, qui soutiennent beaucoup les gens. Moi, je les soutiens économiquement, mais il ne faut pas les oublier parce que c'est vraiment des associations qui font un travail monstrueux dans le département et qui aident vraiment beaucoup de gens. Qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis, je les félicite et puis j'espère qu'ils vont continuer. Je leur donne toute ma force, en tout cas, moi, pour qu'ils continuent. C'est des associations très
importantes. En tout cas, si IDFM Radio peut vous soutenir dans ce partage, nous le ferons très volontiers, hein, Georges. Il n'y a aucun problème. Parce qu'on a bien compris que ce qui vous anime, c'est l'entrepreneuriat et faire du business, mais toujours dans un esprit de partage et de bienveillance.
Bien sûr. Exactement.
Et donc, vous en avez dit un mot, mais assez rapidement, des salles que vous louez. Que faut-il faire pour, si on veut aller dans vos salles?
Ah, il faut s'y prendre en avance, en tout cas.
Combien de temps à l'avance?
Minimum 6 mois.
Six mois,
un an,
ouais.
Minimum en fonction des saisons. C'est des salles où qui sont très grandes, déjà modulables, ça c'est un avantage, mais qui sont très grandes, on peut recevoir jusqu'à 2000 personnes.
D'accord.
Donc, vous pouvez y aller en termes de, d'idées,
d'événements. Ça arrive qu'il y ait 2000 personnes.
Ah oui, beaucoup.
Oui, souvent.
Beaucoup, bien sûr, beaucoup.
Et, il y avait 2000 personnes chez vous, Sabrina.
Après, bon, comme c'est des grands espaces, c'est modulable. Donc, il y a une partie où on peut faire le buffet, il y a une partie où on peut faire un espace coin photo, etc. C'est des salles qu'on tient aujourd'hui depuis à peu près 20 ans. Il y a une très bonne réputation qui est en place justement par rapport au travail qui a été fait par mon père, mon frère et moi-même, parce qu'on est très présents sur notre entreprise. On ne laisse pas... on loue pas la salle et puis on reste à la maison.
Oui, vous êtes, vous allez voir comment ça se passe. Vous êtes complètement sur les lieux, oui.
On est très présent et très proche de nos clients et puis la satisfaction de nos clients c'est très important pour nous. Donc on fait vraiment tout type d'événements et c'est peut-être très tôt pour vous en parler, mais normalement il y aura une grande surprise l'année prochaine aussi au Palace de Villiers pour le département où on va organiser un grand événement avec toutes les entreprises du département.
Très bien, bah, écoutez, on a hâte de savoir ce dont il s'agit.
Après, l'amour qu'on apporte justement aussi à notre entreprise, c'est que depuis 20 ans, tous les 2 ans ou 3 ans, on modernise notre salle, on refait des travaux, on s'actualise en fonction de l'air du temps et puis de ce qui se fait le plus aujourd'hui. On est très en avance là-dessus, on ne reste pas au point mort.
Votre papa doit être heureux de cette transmission.
Bah oui, il est heureux parce que justement, il a bien réussi de là où il venait parce que il n'est pas né entrepreneur et de là où il vient, il a réussi à créer tout ça et puis on le remerciera jamais assez. Mais c'est vrai que la plus grande richesse, c'est de pouvoir transmettre. Parce que
absolument.
Si on fait tout ça et qu'à la fin, on n'arrive pas, on est obligé de revendre. Il a tellement donné de sa personne pour son entreprise que c'était un devoir pour mon frère et moi de récupérer et puis de gérer avec lui l'entreprise.
C'est ça, vous n'êtes jamais posé la question
jamais.
En fait, c'était normal.
C'était normal et au contraire, on se demandait même si on pourra le faire comme lui.
Ah
parce
oui.
qu'il a une énergie incroyable quand même. Il faut le dire, on est deux jeunes dynamiques, mais lui, il est différent. Il est vraiment très, très amoureux et très attaché de son entreprise. Ça lui tient à cœur. Il peut être à la maison, on est à table, il va reparler de ça.
Ah, mais ça, c'est le propre des chefs d'entreprise. Hein. Ouais. Il décroche jamais. C'est clair. Vous connaissiez ces salles, Eric Guillard ?
Absolument pas. Mais si j'ai une de mes filles qui se marie et j'ai 2000 invités, faut que je commence à faire des réserves.
À prévoir.
Oui, exactement.
Bien, mais écoutez, cette émission est en train de se terminer. Juste peut-être avant de nous quitter, un mot de conclusion, Eric Guillard.
Oui, on a parlé de choses qui ne sont pas forcément sympathiques, que sont la crise, et notamment en matière immobilière. Mais force est de constater que de toute façon, ça, à chaque crise, il y a toujours un arrêt et puis un rebond. Et croyez qu'en 2024, le soleil et le bout du tunnel inévitablement va arriver. Et puis, chez notre ami, on ira tous fêter ça dans un bel endroit à Villiers.
L'année prochaine.
Voilà, puis on fêtera ça comme il se doit. En tout cas, croyez en la pierre,
oui,
parce que, la pierre, c'est la terre et c'est la plus belle chose qui soit.
Merci Eric Guillard. Georges Villaramis, alors j'ai l'habitude de poser une question, je ne voulais pas poser d'ailleurs, Eric, si vous deviez exprimer des besoins, quels seraient-ils ?
Écoutez, moi, les besoins que je peux exprimer, par exemple, pour ma personne, moi j'ai un caractère qui n'est vraiment pas égoïste.
Oui.
Donc,
très altruiste.
Voilà, j'ai par exemple la chance d'avoir la maison, le boulot, la voiture,
la santé.
Voilà, la santé, le petit resto par-ci, par-là, etc. Mais. C'est pas ça qui rend heureux. Je vais vous dire la vérité, c'est vraiment de pouvoir partager toutes ces choses-là avec d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui ont la nécessité d'entreprendre. Il y en a qui sont justement tout nouveaux et qui veulent un coup de main. J'aime beaucoup tendre la main justement à ceux qui en ont besoin. J'aime beaucoup créer des synergies justement entre toutes ces personnes-là. On organise dans le parc industriel bientôt des conférences qui vont mettre en avant justement tout l'aspect sur l'intelligence artificielle ou sur la prise de parole. pas spécialement pour une personne ou deux personnes. Justement, je vais mettre ça à disposition de toutes les entreprises de notre parc industriel qui pourront participer gratuitement, s'ils sont adhérents à l'association, qui pourront participer gratuitement à ces événements-là pour que dans chaque entreprise, celui qui veut être à l'actualité de l'intelligence artificielle ou celui qui veut que son directeur apprenne à prendre la parole facilement, et ben, puisse le faire. Et puis moi, j'aime ce côté-là où voilà, on passe de bons moments.
Vous êtes généreux.
Voilà, on apprend de nouvelles choses sur des thèmes différents et puis on passe un petit moment avec un petit pot à la fin, pourquoi pas. Et puis voilà.
Très bien. Ben, on a bien retenu que votre ambition de créer une émulation collective entre tous les acteurs économiques et même voire politiques.
Exactement.
Puisqu'ils sont quand même nécessaires dans ce monde économique.
Et c'est une grande fierté pour moi justement de faire en sorte que notre département rayonne sur toute l'Île-de-France.
Mmh, c'est vrai.
Parce qu'on a, quand on entend la télé, on a souvent des mauvaises visions sur le Val-d'Oise. Mmh, dès qu'on entend Val-d'Oise, on en reste loin. Mmh. Mais je pense que les talents qui sont dans notre département et les entreprises qui y sont, ils sont vraiment incroyables. Il suffit juste de prendre la peine de les mettre un peu plus en avant et de créer un peu plus de rendez-vous comme aujourd'hui ici sur ce plateau. Mais j'y crois et puis notre département, il va vraiment rayonner sur toute l'Île-de-France. Il est jeune et il va rayonner.
C'est sûr. Et je me disais aussi, en vous écoutant avec les projets d'Agoralim, votre région va aussi s'étendre et puis devenir encore plus prospère.
On le souhaite, on l'espère. Après, bon, c'est parti pour. Il y a le maire de Goussainville qui s'occupe très bien de ça avec le président de Rungis.
Oui, Abdelaziz Hamida, oui.
Exactement. Oui. Et il faut être très honnête aussi, toutes les villes voisines de l'aéroport, que ce soit à cheval sur le 95 ou sur le 77, font le travail justement ils font tout le nécessaire pour faire profiter.
Voilà. Se fonctionne.
Exactement. Et pour faire profiter justement toutes les entreprises par rapport à Roissy-Charles de Gaulle. En tout cas, si je peux laisser juste un mot, c'est vraiment, vraiment, il ne faut pas hésiter dans le Val d'Oise, qu'on soit jeune, garçon, fille, il faut y aller à fond. Et je pense qu'il y a toutes les structures qui sont adéquate dans notre département pour pouvoir soutenir, aider ou financer. Et puis, moi, j'en fais partie. Donc, ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, eh ben, il faut foncer, il faut venir nous voir. Il y a la Chambre de commerce, il y a plein d'autres structures
qui sont
là pour ça.
Oui, il y a toutes les institutions. Et
il faut venir, il faut démarcher. Initiative 95 qui fait des beaux projets aussi. Il faut y aller. Moi, je pense que la main, elle est prête à soutenir, à aider. Il faut juste y aller.
Complètement. On a pu, nous, d'ailleurs, le vérifier hein, lorsque on a eu quelques soucis en fin d'année dernière. Donc voilà, c'est vrai, les institutions, elles sont présentes pour soutenir.
C'est une très belle famille Val-d'Oise.
Merci Georges Yaramis pour ce témoignage et puis ce rôle de fédérateur pour le rayonnement du Val-d'Oise. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été les invités de l'économie en direct. Hein. Et puis, on vous souhaite le meilleur hein, pour la suite de votre carrière.
Merci à vous. Merci.
C'est vraiment l'heure de se quitter maintenant. Merci pour la technique, Sabrina. Merci pour votre fidélité
et
votre
Sabrina.
Suivi sur notre antenne, comme à chaque émission. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouvez son intégralité en podcast sur le site idfm98.fr. Vendredi prochain, rendez-vous justement avec pour une spéciale CPME 95 avec son président et ses intervenants. D'ici là, belle journée et bonne semaine. À vendredi.
Faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui coffre. Si tu le veux, prends, je te le donne. Tes yeux, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne, même si ça fait mal quand t'es pas là.
Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas.
Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là,